Je vais commencer par donc le cours de cette année universitaire 2000-2001 par rappeler un petit peu les séminaires de ce mois-ci. Tout à l'heure, à 11h, nous aurons un séminaire de Goran Shliapnikov qui passe en ce moment un séjour à Paris avec nous, qui va nous parler de BEC in Low Dimensional Trapped Gases. Le mardi prochain, le 10 octobre, ce sera Maxime Dahan, qui est au laboratoire Catherine Brosnel, qui va nous parler de spectroscopie par corrélation d'intensité de nanocristaux semi-conducteurs. Des résultats très récents qu'il a obtenus au laboratoire. Le mardi suivant, le 17 octobre, ce sera Roland Combesco qui nous parlera de fermions et nous parlera en fait de la superfluidité BTS du lithium-6 gazeux ultra-froid. Le 24 octobre, ce sera François Virabin du laboratoire Catherine Brosnel qui fera un petit peu le point sur l'atome d'hydrogène, sur les développements récents qui ont eu lieu dans ce domaine et qui nous parlera. Ce sera François Virabin du laboratoire Catherine Brosnel qui fera un petit peu le point sur l'atome d'hydrogène, sur les développements récents qui ont eu lieu dans ce domaine et qui nous parlera donc de l'atome d'hydrogène, de l'électrodynamique quantique à la métrologie. Enfin, en raison de la proximité du 1er novembre, il n'y aura ni cours ni séminaire le mardi 31 octobre. Donc aujourd'hui, je vais faire un rapide bilan des cours des années précédentes et je commencerai le cours de cette année. Je vous rappelle un petit peu que cette année, c'est le quatrième cours d'une série de cours consacrés à la condensation de Bose-Einstein. En 97-98, j'ai fait un cours relativement bref parce que je donnais une partie de mon cours à l'étranger sur le gaz parfait de boson. J'ai étudié essentiellement la condensation de Bose-Einstein, de bosons non interagissants, dans un piège, étudiant les effets de dimensions finies, du nombre fini d'atomes, et parlant des premières mises en évidence expérimentale. En 98-99, j'ai abordé le problème des interactions, mais avec la théorie du champ moyen. Et j'ai passé beaucoup de temps à discuter de l'équation fondamentale dans ce domaine, qui est l'équation de Gross-Pitelsky, en particulier de sa limite à haute intensité, qu'on appelle la limite de Thomas Fermi. J'ai également étudié l'équation de Gross-Pitelsky dépendant du temps et la théorie de Bogu-Dubov, qui permet de calculer les premières excitations élémentaires du condensat à très basse température. Et j'ai passé en revue un certain nombre de phénomènes physiques, comme les modes de vibration du condensat. L'année dernière, j'ai abordé un sujet nouveau qui était les problèmes des phénomènes de cohérence, le problème de la phase et le problème des interférences. Alors, je vais, dans le quart d'heure ou les 20 minutes qui viennent, essayer de jeter un certain nombre de coups de projecteur sur des notions introduites l'an dernier. Je vous rappelle que le cours et les notes de cours ont été scannées toutes les fois, et elles sont disponibles sur le web à cette adresse. Donc vous pouvez avoir les... En particulier, je crois que ça remonte du cas 84, et on essaye d'aller encore plus en arrière maintenant avec l'aide de Franck Laloé, Zahir Dissi et d'autres personnes. On essaye de scanner toutes les notes de cours depuis 73. C'est l'année où j'ai commencé mon enseignement au collège, il y a des notes de cours qui sont disponibles. Donc, si vous avez des questions à vous poser sur ce que les rappels que je fais aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui prennent le cours en marche cette année, vous pouvez vous reporter donc à ces notes de cours. Donc, l'année dernière, j'ai parlé des phénomènes de cohérence, et un outil extrêmement important pour discuter de ces problèmes, et de manière plus générale pour discuter des signaux de détection, c'est ce qu'on appelle les fonctions de corrélation. Alors, j'en donne quelques-unes ici. En particulier, l'analogie avec l'optique est extrêmement utile pour se guider dans ce type de problème. En optique, on a l'habitude d'introduire des fonctions de corrélation qui sont les valeurs moyennes dans l'état du champ d'un produit normal d'opérateurs de création et d'annihilation. Par exemple, E moins de R et plus de R', et plus de R', c'est l'opérateur qui crée un photon pour R', et moins, c'est l'opérateur champ électrique qui détruit un photon point, pardon, et plus détruit et moins créé, et ça décrit la cohérence spatiale entre les valeurs du champ en deux points R et R' différents. On pourrait aussi travailler en représentation de Heisenberg et introduire les corrélations entre deux champs électriques à des instants différents et à des points différents. On peut également introduire, bien sûr, pour caractériser entièrement le champ, des fonctions de corrélation d'ordre supérieur, et moins de R, et moins de R', et plus de R', et plus de R, c'est 2. Ici, j'ai pris les quatre arguments des quatre points R, pas tous différents. Les deux extrêmes sont identiques, les deux du milieu sont identiques, mais différents l'un de l'autre, et ceci représente la probabilité de détecter un photon au point R et un autre photon au point R'. Par analogie, il existe des fonctions de corrélation analogues pour un système de bosons, où c'est maintenant un produit toujours rangé sur l'ordre normal d'opérateurs création et destruction de bosons. Alors, je signale ici une petite difficulté, mais il est impossible de changer de notation. Elle est tout à fait acceptée maintenant. L'ennui, c'est que E+, pour le champ, c'est l'opérateur de destruction, alors que Psi+, pour les bosons, c'est l'opérateur de création. Donc, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Donc, Psi+, pour les bosons, ça crée, Psi, ça détruit. Donc, cet opérateur, la valeur moyenne de cet opérateur représente la cohérence spatiale entre deux points et R'. Elle représente dans quelle mesure, si on effectue des frontes d'interférence avec des champs de matière issus du point R et du point R', ça va donner le contraste des frontes d'interférence. On peut aussi, comme en optique, introduire des fonctions de corrélation d'ordre plus élevé, comme celle-ci, qui donne la probabilité de détecter un boson au point R et de détecter un boson au point R'. Alors, en optique, les états qui sont les plus couramment utilisés, les plus faciles à réaliser en fait, c'est ce qu'on appelle les états cohérents. Je ne reviens pas là-dessus, je donne très simplement, très rapidement quelques propriétés. Ce sont des états propres des opérateurs d'annihilation. Quand on les écrit dans la base des états nombres de photons, c'est une superposition d'états avec des nombres de photons différents. Et surtout, toutes les fonctions de corrélation du champ électromagnétique lorsqu'il est dans un état cohérent, apparaît sous forme d'un produit de champ classique. C'est le champ classique associé à l'état cohérent. Donc, par exemple, E plus de R et moins de R', c'est le produit de deux champs classiques, E plus au point R et E moins au point R'. Et idem pour toutes les fonctions de corrélation d'ordre supérieur. Ils sont bien sûr bien adaptés pour décrire l'état d'un champ qui sort d'un laser bien au-dessus du seuil, quand l'amplitude est bien stabilisée. Pour les bosons, la situation est différente. Un état cohérent pour un boson, c'est un peu un intermédiaire de calcul mathématique. Ça n'a pas de grand sens physique parce que c'est pas très bien ce que représente un état qui est une superposition d'états avec des nombres d'atomes différents. À la différence des photons qui peuvent être émis ou absorbés, dont le nombre varie au cours d'une expérience, pour les bosons, c'est plus compliqué. Évidemment, on peut avoir des processus de collision qui font passer les bosons d'un état à un autre et par conséquent, si on se limite à un type d'état, le nombre de bosons dans cet état peut varier, mais disons que les états cohérents sont un petit peu trop mathématiques, et les états qui sont plus réalistes sont les états de Fock, correspondant à un nombre bien défini, grand N, de bosons. Ils sont bien adaptés pour décrire un condensat. Un condensat, c'est, en première approximation, un système où on a N bosons dans le même état phi 0. Qu'est-ce que c'est que l'état phi 0? Dans le cas du gaz parfait, c'est l'état fondamental du piège qui contient les bosons. Les bosons n'interagissent pas, ils vont tous, à température suffisamment basse, se condenser dans l'état fondamental du piège. S'ils interagissent, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut tenir compte des interactions mutuelles entre les bosons, et dans une théorie de champ moyen, on trouve une équation, l'équation de Gross-Pitaïevski, qui est une équation autocohérente, qui décrit comment chaque boson se déplace dans le potentiel extérieur, et dans le champ moyen créé par les N-1 autres bosons, et c'est ce qu'on appelle l'équation de Gross-Pitaïevski. À cela, une bonne approximation pour décrire le condensat, c'est N bosons dans la solution phi 0 de l'état de l'équation de Gross-Pitaïevski. Si N est suffisamment grand devant 1 pour qu'on puisse remplacer N, N-1 par N2, N, N-1, N-2 par N3, à cela, on trouve aussi, comme pour l'optique, pour un état cohérent, mais ici pour un état de Fock, toutes les fonctions de corrélation se factorisent sous forme d'un produit de fonctions d'onde macroscopique. Pourquoi macroscopique? Parce qu'elle s'écrit sous la forme racine de N phi 0 de R, où phi 0 de R est la fonction que j'ai introduite plus haut, normée à l'unité. D'accord? Donc on a une onde de matière que certains appellent géante, macroscopique, et toutes les fonctions de corrélation d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, quand on a un condensat avec N atome dans l'état phi 0, apparaissent à des termes correctifs très petits, près, comme le produit d'un 2, 4, 6, 8 fonctions d'onde macroscopique. Racine de R, phi 0 de R, racine de N, phi 0 de R', et ainsi de suite. Enfin, j'insiste sur le fait que, dans cette description, l'opérateur de densité du système, si on prend des mélanges statistiques, n'a jamais d'élément non diagonal entre des états de nombre total de particules n différents. Rho n' est nul si n différent de n'. C'est ce qu'on appelle aussi parfois des règles de supersélection. Bon, ceci étant brièvement rappelé, je voudrais juste rappeler un résultat important que j'ai établi l'an dernier, qui est un exemple de calcul simple et très instructif, qui est le calcul de la fonction de corrélation d'ordre 1 normalisée pour un gaz parfait de boson. Je redonne simplement le calcul ici. Les résultats, pardon, je ne fais pas le calcul, donc il est fait en détail dans les notes de l'an dernier. Donc, j'appelle petit g1 de RR' la fonction de corrélation g1 de RR' divisée par la racine carrée de g1 RR, g1 R'R', de sorte que g1 tend vers 1 quand R tend vers R'. Si je prends un gaz parfait de boson non interagissant, homogène, c'est-à-dire dans une boîte infinie, où la densité est uniforme, à ce moment-là, le calcul peut être fait jusqu'au bout, et je résume les résultats ici. Quand T est très grand dans TC, TC étant la température critique, la fonction de corrélation spatiale est une gaussienne, et puissance moins pi, d'abord, elle ne dépend à cause de l'invariance par translation que de R moins R', que je pose égal à S, S égale module de R moins R'. G1 de S est une fonction gaussienne, dont la largeur à 1 sur E est lambda T sur racine de pi, ou lambda T, racine de 2 pi h bar 2 sur m kbt, et la fameuse longueur d'onde de Debye thermique, qui est très petite pour des atomes ordinaires à température ambiante, elle est de l'ordre d'une fraction d'angstrom. Donc on a une corrélation spatiale qui s'étend à très courte portée. Puis on augmente, on diminue la température, on se rapproche de T égale TC, à ce moment-là la fonction de corrélation apparaît comme une somme de gaussienne avec des largeurs croissantes, donc la somme a une largeur qui croît, et lorsqu'on arrive à TC, on obtient donc une courbe qui est toujours une courbe en cloche, qui a une largeur de l'ordre de lambda t, un peu plus grande que précédemment. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que ces ailes maintenant, au lieu de décroître exponentiellement, décroissent comme une loi de puissance, en 1 sur s. Il y a disparition de toute échelle de longueur quand on arrive à la température critique. C'est une loi de puissance. Et puis, si on descend toute la température critique, la fonction de corrélation normalisée, g1 de s, prend la forme suivante. Il y a la fonction précédente, contractée par un facteur de contraction, et ajoutée à un fond plat. Donc on a une fonction de corrélation maintenant qui tend vers une asymptote horizontale d'ordonnée n0 sur n, où n0 le nombre de particules dans l'état fondamental, condensé, et n le nombre total de particules. Donc quand t tend vers 0, le fond tend vers 1. Donc on a une fonction de corrélation qui a encore une petite décroissance, mais qui reste non nulle à grande distance. C'est ce qu'on appelle un ordre spatial à longue portée, et ça c'est caractéristique, disons, du phénomène de condensation de Bose-Einstein. Donc ça c'est un exemple extrêmement instructif, et nous allons voir qu'il a pu être soumis au test de l'expérience. Ensuite, l'an dernier, j'ai abordé une question importante, qui est le problème de la phase relative. Phase relative entre deux condensats. Je résume ici très brièvement des études qui ont été faites en détail, et dans les notes que je vous ai distribuées, il y a le rapport d'enseignement que je donne tous les ans pour mon cours Collège de France, qui est un peu plus détaillé. Ici, je donne en plus quelques formules au tableau. Donc, on prend deux condensats bien séparés, psi1, dont les fonctions d'onde sont psi1 et psi2. Psi1 et psi2 sont les solutions des équations de Gross-Pitaïevski pour chaque piège. Et je suppose d'abord que l'état des deux condensats est un état de Fock. N1, N2, il y a N1 particule, N1 boson dans le condensat 1, N2 boson dans le condensat 2. À ce moment-là, un calcul très simple montre que G1 de R1, R2 égale 0. Il n'y a pas de cohérence spatiale entre un point du condensat 1 et un point du condensat 2. Il n'y a pas de phase relative bien définie. Alors, un type d'état, j'en ai introduit plusieurs l'an dernier, en ayant parlé à partir des états cohérents, mais un type d'état particulièrement commode à utiliser, c'est ce qu'on appelle un état de phase, que je note n mu1 mu2 θ, dont l'écriture est la suivante. J'appelle A1 croix l'opérateur qui crée un boson dans l'état psi 1, A2 de croix, l'opérateur qui fait un boson dans l'état psi 2, je prends l'opérateur mu 1 à 1 croix plus mu 2 puissance moins i θ à 2 croix, où mu 1 et mu 2 sont deux coefficients réels dont la somme des carrés est égale à 1, et θ une phase réelle. Donc quand je fais agir mu 1 à 1 croix plus mu 2 à 2 croix puissance moins i θ sur le vide, j'obtiens une particule, un boson, qui est dans une superposition linéaire de l'état psi 1 et de l'état psi 2 avec des coefficients mu 1 et mu 2 puissance moins i θ. Donc c'est un état qui a une phase relative qui n'est pas bien définie. On en prend la puissance n, donc on prend n bosons tous dans cet état de phase bien défini, et le facteur 1 sur racine de factoriel n, c'est simplement un facteur de normalisation. Un tel état décrit donc un état où on peut parler d'une phase relative bien définie entre les deux condensats, puisque chaque boson est dans une superposition des deux états avec une phase relative bien définie. Alors, si on développe cette puissance n, on fait apparaître les coefficients du binôme, et je ne refais pas les calculs ici qui ont été faits en détail l'an dernier, je donne simplement les résultats essentiels. On trouve à ce moment-là qu'un état de phase est une superposition linéaire, somme sur n1, somme sur n2, de cn1, n2, n1, n2, avec n1 plus n2 égale n fixe. Donc c'est une superposition linéaire d'état où les n bosons sont répartis de manière différente entre condensat 1 et condensat 2. En fait, les carrés des modules des coefficients cn1, n2 sont donnés par une loi binomiale, dont on peut calculer les valeurs moyennes, les variances, et on peut calculer ainsi toutes les grandeurs statistiques sur n1, n2. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'on voit que c'est une superposition linéaire d'état où n1 plus n2 est le même d'un état à l'autre, mais n1 moins n2 ne change d'un état à l'autre. Autrement dit, si on prend l'opérateur densité du système, il est diagonal en grand n égale n1 plus n2, mais il est non diagonal en petit n égale n1 moins n2. Il y a des cohérences entre états de nombre de différences, de nombre correspondant à des différences n1 moins n2 différentes entre les deux états. Donc on dit petit n, rho chapeau, petit n prime, est différent de 0 si petit n est différent de petit n prime. Alors ça c'est très important parce que si ensuite on prend un mélange statistique d'états de phase relative avec θ équiparti entre 0 et 2π, on retrouve un rho chapeau, un opérateur de densité, qui est diagonal à la fois en grand N égale n1 plus n2 et à la fois en petit n égale n1 moins n2. Donc, plus la non-diagonalité entre guillemets de rho en petit n est importante, plus la phase relative est bien définie. S'il n'y a pas de non-diagonalité de rho en petit n égale n1 moins n2, la phase relative n'est pas bien définie. Autrement dit, n1 moins n2 apparaît en quelque sorte comme la variable conjuguée de la phase relative. Ça, c'est une idée importante que j'ai donc expliquée en grand détail et j'ai consacré plusieurs séances de l'an dernier à décrire des travaux, en particulier faits par Yvan Castin et Jean Balibar, sur l'émergence d'une phase relative sous l'effet d'une suite de processus de détection. Supposons en effet que nous partions d'un état de Fock N1, N2, deux condensats, et quand ils sont séparés, on les lâche, ils tombent, on va en parler tout à l'heure, ils se recouvrent, et à ce moment-là, on peut regarder ce qui se passe sur un écran, avec un détecteur. À ce moment-là, la première détection apparaît. Un boson est détecté au point R. Mais au début, dans l'état de Fock N1, N2, il n'y a pas de phase relative bien définie entre les deux condensats. Après la première détection, il y a un boson de moins. Mais le boson qui a été détecté peut provenir soit du mode psi 1, du condensat psi 1, soit du condensat psi 2. Et par conséquent, l'état après la détection du premier photon, du premier boson, pardon, en appliquant le postulat de réduction du paquet d'ondes, est une superposition linéaire de l'état un boson de moins dans le condensat psi 1 N2, ou le même nombre de condensats d'atomes dans l'état psi 1, et un boson de moins dans le condensat psi 2. Alpha et bêta étant des coefficients calculables qui dépendent du point R où va se produire la détection. Donc on voit apparaître ici une superposition de deux états linéaires où n à moins n2 vaut moins et n à moins n2 ici ne sont pas les mêmes. Ils varient de plus de 2 entre l'un et l'autre. Puis une deuxième détection se produit en R'. A priori, je ne sais pas d'ailleurs où elle se produit. Je peux calculer la probabilité pour qu'elle apparaisse ici ou ici. C'est donné par le vecteur d'état du début, mais elle se produit en R'. À ce moment-là, le deuxième photon va être détecté soit dans le premier condensat, soit dans le deuxième. Donc, l'état après la détection du deuxième boson va être soit N1-2N2, les deux bosons ont été détectés dans le condensat 1, N1, N2-2 ont été détectés dans le condensat 2, N1-1, N2-1 a été détecté dans le condensat 1, l'autre dans le condensat 2. Et vous voyez à ce moment-là que la non-diagonalité de psi devient plus importante encore, puisque ici, la différence entre ces deux nombres vaut N1-N2-2, ici, elle vaut N1-N2+2, donc il y a 4 de différence entre N1-N2 et ainsi de suite. Les coefficients ici, alpha, bêta, lambda, minute, dépendent de R et de la prime. Et nous voyons qu'au fur et à mesure que le nombre de détections augmente, l'extension en petit n de la non-diagonalité de ρ augmente et la connaissance de la phase relative augmente. Et à la fin, on va avoir une figure d'interférence de plus en plus claire. Donc, cette approche du problème se prête particulièrement bien à des simulations Monte Carlo, elle se prête aussi à des calculs analytiques, dans certains cas simples, et elle montre, elle a l'avantage, comme beaucoup d'autres expériences en physique actuellement, que il faut faire attention à bien distinguer entre une réalisation expérimentale unique, où on voit apparaître des fronts d'interférence dont la position va dépendre de cette réalisation, et une moyenne d'ensemble sur plusieurs réalisations expérimentales, parce que si c'est une deuxième réalisation expérimentale, les photons vont être détectés différemment, et on va avoir un système de fronts d'interférence avec une autre position. Et si on fait la moyenne statistique de toutes ces réalisations, on va trouver zéro, comme c'est le cas si on calcule d'emblée par formalisme de la matrice densité les fronts d'interférence dans l'état initial N1, N2. Autrement dit, quand on fait une seule expérience, on voit des fronts d'interférence, mais on ne peut pas prédire avec certitude où vont se situer les fronts. La position des fronts va varier aléatoirement d'une réalisation expérimentale à l'autre. Donc j'ai étudié ce problème en très grand détail l'an dernier. Enfin, je voudrais terminer ce rappel très bref du cours de l'an dernier par une description de quelques expériences. Je ne les décrirai pas toutes, de nouveau, mais je donnerai quelques-unes qui sont particulièrement significatives. La première expérience que j'ai décrite en détail l'an dernier, et qui est bien sûr relative au problème de la phase relative, c'est l'expérience du groupe de MIT sur l'interférence entre deux condensats. Donc, Andrews, Townsend, Michener, Diossi, Kern et Ketterle, apparu dans Science en 1997. Alors, le principe de l'expérience est le suivant. On part d'un condensat dans un piège anisotrope qui est très très allongé. Au moyen d'un faisceau laser accordé vers le bleu, on le coupe en deux morceaux, comme avec un ciseau. En faisant varier l'intensité du faisceau laser, on peut séparer plus ou moins les deux morceaux du condensat qu'on a coupé en deux. Donc on a deux condensats ici. Et puis, à l'instant T, gaz 0, on les lâche, ils tombent. Et sous l'effet des interactions mutuelles entre ces particules, on va avoir une expansion, chaque nuage va grossir, et il va grossir plus dans la région de petit diamètre, dans celle-là, que dans l'autre, de sorte que l'anisotropie qui était dans ce sens-là, le cigare allongé dans ce sens-là, va donner naissance à deux cigares allongés dans l'autre direction. Au début, il ne se recouvre pas, après un moment, il se recouvre. Et avec un laser sonde, on fait une image de la zone de recouvrement. Et pour éviter, c'est très difficile cette expérience parce qu'on a des fronts très allongés, des zones brillantes et des zones sombres allongées verticalement très longues. Et à ce moment-là, il faut viser vraiment dans l'axe pour avoir les fronts. Donc l'astuce des expérimentateurs a été de faire un pompage optique sur une toute petite tranche ici, de mettre les atomes dans un état où on peut les détecter. Et à ce moment-là, on diminue cet effet de parallaxe qu'on vit le long des franges sombres. Et effectivement, on trouve des franges d'interférence. Que j'ai représenté ici. Ceci, c'est l'observation expérimentale. Ça, c'est le calcul théorique idéal. Et ça, c'est le calcul théorique idéal tenant compte de la résolution finie de l'expérience, due au fait qu'on détecte dans ces franges sombres et brillantes le long d'une hauteur et que par conséquent l'ouverture du faisceau laser qui fait la détection ne permet pas d'avoir un contraste parfait. Mais vous voyez qu'on retrouve parfaitement bien l'interfrange, la forme générale des franges d'interférence et des calculs faits par des chercheurs allemands, en particulier Hartmut Wallis, ont permis également de montrer que quand on tenait compte des interactions, on avait un très bon accord entre la théorie et l'expérience. Donc ça montre que deux morceaux de condensat, même si on attend suffisamment longtemps pour qu'ils aient oublié toute la phase relative qui existait au début entre eux, sont susceptibles de donner naissance à des phénomènes d'interférence. J'ai décrit aussi l'an dernier toute une série d'expériences visant à montrer que la longueur de cohérence spatiale d'un condensat était de l'ordre des dimensions du condensat lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, dans un condensat, une sorte de sous-condensat avec des longueurs de cohérence plus petites que la dimension du condensat elle-même. Et j'ai décrit en particulier des expériences réalisées à MIT, réalisées à Gaithersburg et à Munich. Et je rappelle juste ici l'expérience de Munich parce que je trouve que c'est la plus démonstrative. J'aurai l'occasion d'ailleurs dans le cours cette année de revenir sur les expériences de MIT. Donc je décris l'expérience à Munich par Emmanuel Bloch, Ted Hensch et Tom Esslinger. L'idée est très simple. Ce groupe de chercheurs a pris un piège magnétique extrêmement stable, dont le champ magnétique est très bien stabilisé et qui ne bouge pas au cours du temps. J'ai dessiné ici le principe de l'expérience. Les atomes sont condensés dans un niveau Zeeman M égale moins 1 qui est piégeant. Et ici est dessiné le niveau Zeeman MF égale 0 qui, lui, n'est pas piégeant dans le champ magnétique. Alors s'il est penché comme ça, c'est que simplement il y a le champ de gravitation. Donc ça, c'est le potentiel de gravitation qui fait que, comme ils ne sont pas piégés, ils vont tomber dans le champ de gravitation. Cette petite bosse ici, ça représente l'effet du champ moyen quand un atome est dans l'état MF égale 0, l'effet du champ moyen créé par les N-1 autres atomes condensés. Alors, en appliquant un champ de radiofréquence, de fréquence bien définie, oméga, on peut faire passer des atomes d'un niveau Zeeman à l'autre. Et vous voyez que si on applique un champ de radiofréquence H bar oméga, on va préférentiellement transférer les atomes de l'état condensé vers la fonction d'onde qui part de là et qui a la forme d'une fonction des riz à grande distance puisqu'on a la solution de l'équation Schrödinger dans un potentiel linéaire. Donc, en appliquant un champ de radiofréquence très bien défini, on fait une fuite qui fait sortir une onde de matière d'un point bien défini du condensat. Si on applique une deuxième champ de fréquence différente, on fait fuir du condensat une deuxième onde de matière à partir de ce point. Et puis les deux ondes de matière, alors cette figure est horizontale, mais en fait il faudrait la regarder verticale comme ça, les ondes de matière tombent dans cette direction, et si les deux ondes de matière sont cohérentes, elles vont battre l'une avec l'autre, et on va avoir un phénomène d'interférence qu'on peut entièrement calculer. Et voilà les résultats observés, ils sont très spectaculaires. À droite, c'est donc le condensat que vous voyez en haut. Et on est à T, grand TC, sur les deux ondes de matière descendent. Et ce qu'on observe, on n'observe aucune modulation spatiale liée à une interférence entre les ondes de matière. Ici, on est à T, voisin de TC. Et vous voyez très clairement ici apparaître des structures périodiques. Ici, c'est un tracé de la densité d'atomes en fonction de la distance. La courbe rouge est la courbe théorique calculée à partir de ce qu'on attend. Et vous voyez apparaître un contraste non nul qui montre que les deux ondes interfèrent. Et puis, si on est très en dessous de TC, vous voyez à ce moment-là que c'est magnifique, le battement se produit, se maintient tout au long de la chute, et on voit ici un très beau signal d'interférence entre les deux ondes de matière. Et si on porte ici le contraste observé en fonction de delta z, la différence d'altitude des deux points d'où on extrait les deux ondes de matière, vous voyez que pour t plus petit que t plus grand que tc, le contraste tend vers 0, alors que pour t plus petit que tc, le contraste tend vers un plateau. Alors, ça rappelle tout à fait les discussions que vous avez faites tout à l'heure ici pour l'exemple 5. Ici, simplement, pour être honnête, si on continuait cette courbe-là, ça retendrait vers 0 parce qu'ici on n'a pas un condensat homogène, mais on a un condensat piégé. Donc la distance delta z entre les deux points d'où on extrait les deux ondes de matière ne peut pas être plus grande que l'extension spatiale du condensat dans la direction verticale. Mais ici on n'y est pas encore, on est uniquement à 700 nanomètres. Mais vous voyez qu'il y a très bien un plateau, et la courbe en très pointillé là, ici, c'est une courbe en 1 sur delta z, et vous voyez que l'ajustement, le fit avec une loi en 1 sur delta z est meilleur qu'avec une gaussienne. Ce qui montre, comme je vous l'ai expliqué ici, que quand on arrive à la température critique et en dessous de la température critique, la courbe qui continue à évoluer, c'est une courbe qui est en loi de puissance, qui a des ailes en loi de puissance, en 1 sur S. Donc là aussi, ça semble être confirmé par l'expérience. Donc ici, on a un test direct de la cohérence spatiale qui existe entre deux points du condensat en fonction de l'écart entre ces deux points. J'ai enfin étudié l'an dernier, rappelé aussi des conférences, des expériences qui ont été faites à Boulder, sur des expériences portant sur des mélanges de deux condensats. Et bon, elles sont dans ces notes et je ne reviendrai pas trop là-dessus. Donc je vais passer maintenant, si vous permettez, au thème du cours de cette année, essayer d'introduire un certain nombre de données. Alors, à la demande de Franck Laloé, pour diminuer la mémoire des fichiers, parce que jusqu'à présent, les fichiers sont scannés et mis sur le web, et ça prend des mémoires considérables, avec des fichiers tapés, que ce soit en Word ou en PowerPoint, c'est beaucoup moins dense, au point de vue mémoire, et c'est plus facile à télécharger. Donc, je fais l'effort de faire maintenant des transports en tapé. Je m'excuse à l'avance des imperfections et demande votre indulgence, mais ça prend beaucoup plus de temps au début qu'avant, mais j'espère que petit à petit je vais arriver à aller plus vite comme ça qu'en les écrivant. Donc ce que je pense faire cette année, c'est étudier la réponse d'un condensat à divers types d'excitation. Ça, c'est le thème général que je voudrais étudier. Nous allons voir en fait que c'est un thème très riche parce que toute expérience, en fait, revient à interroger le condensat et essayer d'obtenir de sa part une réponse sur telle ou telle grandeur physique. Alors, qu'est-ce qu'on fait quelles sont les expériences auxquelles on pense? On envoie sur le condensat une particule. Et essentiellement, je vais décrire deux types d'expériences, celle où on envoie un photon et celle où on envoie un atome. Un atome qui peut être un atome de même nature que les atomes condensés, simplement dont on a changé le niveau Zeeman, de manière qu'il puisse être considéré comme discernable des atomes condensés. Donc on envoie sur le condensat donc une particule, atome et photon, et on regarde comment elle est diffusée dans une direction donnée. Et on va ainsi sonder les propriétés du condensat, étudier sa structure spatiale, étudier ses diverses excitations élémentaires, étudier la durée de vie de ces excitations. Donc toutes les informations qu'on va obtenir vont venir d'une observation de la particule diffusée. En fait, il faut bien voir que cette méthode est extrêmement générale et que tous les systèmes à N-corps, la plupart des systèmes à N-corps, les solides, les liquides, sont étudiés de cette manière. Et les sondes qu'on envoie dessus, c'est des sondes diverses. Et dans la matière condensée, on utilise énormément les neutrons ou le rayonnement synchrotron, ou les lasers, ça dépend un petit peu du domaine, de longueur d'onde et de fréquence des excitations que l'on veut sonder. Il y a également à bien comprendre que dans ces expériences, et je décrirai cette année deux types d'expériences correspondant à ces deux régimes, il y a deux types de régimes qu'on peut envisager. Un premier régime qu'on peut appeler le régime linéaire, où l'excitation de la particule sonde est suffisamment faible pour que son effet puisse être traité par la théorie des perturbations. On se limite à un calcul de diffusion au premier ordre, à l'approximation de Born. Qu'est-ce qu'on néglige ? On considère donc que chaque processus de diffusion n'influence pas les suivants. Que le photon qui est diffusé, le photon suivant qui va être diffusé, n'est pas perturbé par la première diffusion. On néglige aussi le processus de diffusion multiple. La situation où un photon est absorbé, diffusé, puis réabsorbé avant de sortir du milieu par un autre atome condensé. Autrement dit, on suppose que chaque nouvelle particule qui est diffusée va être diffusée par un condensat qui est dans le même état initial, qui n'est pas perturbé par les diffusions précédentes. Alors, il faut bien voir que ce n'est pas le cas général, mais il y a des cas plus riches, plus intéressants d'ailleurs, et qui sont particulièrement importants dans le phénomène de condensation dans un champ, puisque nous savons que les excitations élémentaires dans un condensat ont une durée de vie très longue et une longueur de cohérence extrêmement grande. Donc, un premier processus de diffusion peut créer une excitation élémentaire, un phonon par exemple, qui va mettre du temps à s'amortir, à disparaître. Et un deuxième photon qui va arriver va rencontrer le phonon qui a été créé par le premier photon. Et chaque processus de diffusion va influencer les suivants. Donc il va y avoir des corrélations entre les diffusions successives. Et vont apparaître des phénomènes extrêmement intéressants qui ont été observés expérimentalement et étudiés, comme la superalliance, une émission collective importante dans une direction donnée, comme l'amplification de l'onde de matière, l'amplification de l'onde lumineuse. Et tous ces effets donc donnent naissance à une moisson riche de phénomènes nouveaux. Alors, la première partie de ce cours va être consacrée au régime linéaire. Et pour caractériser le régime linéaire, il y a plusieurs fonctions importantes qui apparaissent. Et je voudrais en faire la liste aujourd'hui avant de les définir. Fonction caractérisant le régime linéaire. La première fonction particulièrement importante, c'est ce qu'on appelle le facteur de structure dynamique, qui est une fonction qui dépend de deux types de variables, Q, H bar Q, qui est le transfert d'impulsion. La particule diffusée transfère au système diffuseur une impulsion H bar Q. Donc son impulsion finale va être P initiale moins H bar Q. Et son énergie va diminuer de H bar oméga parce qu'elle a cédé au condensat une énergie H bar oméga. Et le facteur de structure dynamique dépend de H bar Q et de H bar oméga, c'est-à-dire de l'énergie et de l'impulsion qui ont été transférées par la particule sonde au système qui est sondé. Et donc S Q oméga caractérise en quelque sorte l'aptitude du condensat à absorber H bar Q et à absorber H bar oméga. Alors il faut bien voir que dans un processus, si vous revenez à une image classique de la diffusion, quand vous avez un système de plusieurs particules qui diffusent par exemple une onde lumineuse, chaque particule va diffuser l'onde lumineuse avec une certaine intensité, dépendant de l'angle de diffusion. Et donc il va y avoir une amplitude de diffusion individuelle qui dépend de la particule et du potentiel d'interaction. Quand on a plusieurs particules, il faut tenir compte des interférences entre les ondes divisées par les diverses particules. Et là, la structure spatiale du système de particules est très importante. Si en effet, vous aviez un milieu parfaitement homogène, à ce moment-là, les ondes diffusées dans une direction autre que la direction avant par les diverses particules vont interférer destructivement. Donc si on avait un milieu parfaitement homogène, il n'y aurait aucune diffusion latérale. Mais on sait bien qu'il y a des fluctuations, et c'est par exemple pour ça que le ciel est bleu. Si le ciel était un milieu continu, parfaitement continu, il n'y aurait pas du tout de diffusion de la lumière dans les directions autres que la direction qui vient du Soleil. Donc c'est parce qu'il y a des fluctuations des positions des particules que l'amplitude de diffusion totale dans une direction donnée va pas être nulle. Par exemple, si vous supposez qu'il y a une répartition périodique de densité dans le milieu, un réseau de densité, il va y avoir une diffusion particulièrement importante dans la direction correspondant à la diffraction de Bragg par ce réseau. Si ce réseau bouge, si les particules sont en mouvement, il va y avoir aussi un déplacement de fréquence. Donc vous voyez que l'étude de la lumière diffusée, sa répartition angulaire et sa répartition en fréquence vont renseigner sur les fluctuations spatiale et temporelle qui règne à l'intérieur du milieu. Et que donc la section efficace de diffusion va se factoriser en un morceau qui dépend du potentiel élémentaire de la particule sonde avec une particule diffusante, et qui va être la même pour toutes les particules, et un facteur global qui représente l'arrangement spatial et la dynamique temporelle des différents milieux atomes diffuseurs. Et c'est ça le facteur de structure dynamique. Ce que je raconte ici, c'est quelque chose qui est très bien connu de tous les gens qui sont spécialistes de diffusion de la lumière. Toutes les expériences de diffusion de la lumière reviennent en fait à mesurer cette fonction, ce facteur de structure SQ oméga, et qui donne des informations sur la dynamique et des corrélations spatio-temporelles qui existent à l'intérieur du milieu. Et nous verrons effectivement que SQ oméga est relié directement à la fonction de corrélation spatio-temporelle de la densité au point R et au point T. Alors, une autre fonction très importante, c'est ce qu'on appelle le facteur de structure statique, S de Q, qui est 1 sur N, c'est pour définir ça par atome, somme sur oméga de D oméga SQ oméga. On fait l'intégrale sur oméga du facteur de structure dynamique. Alors ça, physiquement, ça veut dire la chose suivante. Si on suppose que le transfert d'impulsion est petit devant l'impulsion initiale de la particule, et le transfert d'énergie est petit devant l'énergie initiale de la particule, à ce moment-là, on peut faire varier oméga sans changer beaucoup Q. Et à ce moment-là, on peut intégrer sur oméga pour un Q fixé donné. On peut, en toute rigueur, quand on varie oméga, on varie aussi Q. Mais si on peut négliger les variations de Q, ce qu'on appelle l'approximation quasi-statique, à ce moment-là, on peut considérer Q constant qu'on intègre sur l'étendue oméga du spectre de diffusion, et à ce moment-là, l'intégrale sur oméga de SQ oméga représente l'intensité totale diffusée dans une direction donnée, indépendamment de la répartition spectrale. Alors ça, on verra que ça donne des informations sur la structure statique du milieu diffuseur. Ça permet de mesurer en particulier la fonction de corrélation de paires, la probabilité d'avoir deux particules à un instant donné séparées par une distance R dans le système diffuseur. Autre fonction importante, la fonction de réponse linéaire, qui dA de t. Ça, c'est très connu aussi dans tous les problèmes de AM-Core. Ça caractérise la réponse du condensat observée sur la grandeur B à une excitation proportionnelle à la grandeur A du condensat. On coupe le condensat à une perturbation qui est sensible à grand A, et on regarde la réponse sur grand B. Et ça, c'est qui BA de T. On peut aussi prendre la transformée de Fourier de qui BA d'oméga, et ça s'appelle la polarisabilité dynamique. On excite le condensat sur A de manière périodique, et on regarde la réponse périodique à la même fréquence sur l'observable B, avec une partie réelle, une partie imaginaire, qui va décrire la réponse dispersive et la réponse dissipative. Donc, nous voyons toutes ces choses-là, et ce sur quoi je voudrais maintenant insister, c'est que les observables du condensat, qui jouent vraiment un rôle central dans tous ces problèmes, c'est pas n'importe lequel, c'en est une, c'en est deux en fait, qui sont les densités spatiales. Alors ici, j'ai de nouveau un problème de notation. C'est un opérateur, l'opérateur densité spatiale, et il y a aussi malheureusement l'opérateur densité mécanique quantique, rho. Donc, pour éviter toute confusion, j'appellerai rho indice 1, l'opérateur densité spatiale à un corps, et rho indice 2, l'opérateur densité spatiale à deux corps. À ne pas confondre avec l'opérateur densité qui décrit l'état du système, l'état quantique du système. Alors, j'ai introduit donc ces deux opérateurs. Pourquoi ils sont importants? Parce que ce sont eux qui apparaissent dans le facteur de structure. Et ce sont eux qui sont couplés à toutes les excitations auxquelles on peut penser. Quand on excite un condensat, on excite en fait le condensat via sa densité. Et donc, j'expliquerai dans un petit moment pourquoi. Alors, quelle est l'expression de la densité à un corps? Ben, c'est trivial, hein, c'est somme sur I de 1 à N de delta de R moins RI. C'est une série de fonctions de delta localisées en tous les points de la tous les points où sont les particules. Dans cette formule, R est un nombre, RI un opérateur. Hein. La valeur moyenne de rho 1 de R dans l'état du système, c'est la probabilité de trouver la particule 1 au point R, plus la probabilité de trouver la particule 2 au point R, plus la probabilité de trouver la particule I au point R, ainsi de suite. C'est donc la probabilité de trouver une particule quelconque au point R. Ça mérite bien le nom de densité spatiale. La densité spatiale à deux corps, rho 2 de RR', c'est somme sur I de 1 à N, somme sur J différent de I, du produit delta de R moins RI, delta de R moins RJ. La valeur moyenne de cet objet dans l'état du système, c'est la probabilité de trouver une particule quelconque au point R, et une autre, pas la même, une autre particule quelconque au point R'. C'est ce qu'on appelle la densité spatiale à deux corps. Alors, important maintenant, je voudrais vous montrer concrètement pourquoi ces objets sont importants et prendre deux problèmes qui sont les problèmes que j'étudierai constamment dans la suite, deux exemples d'interaction, interaction avec une particule, interaction avec un photon. Alors, premier exemple donc de problème où apparaît la densité spatiale à un corps, exemple 1, on diffuse une particule sonde par le condensat. La particule sonde a une position grand R et elle interagit avec les particules du condensat par un potentiel dépendant de la distance, grand U. Donc elle interagit avec, par exemple, la particule I par une énergie U de grand R moins R, petit R RI, qui dépend de R moins RI. Et l'interaction, c'est une somme d'interactions de paires. Donc H interaction, c'est somme sur I de 1 à N de U de R moins RI, que je peux réécrire somme de D3R de U de grand R moins petit R, somme sur I de 1 à N de delta de R moins RI. et vous y apparaître somme de D3R, de U de grand R moins petit R, rho 1 de R. On voit apparaître explicitement la densité d'un corps dans l'hamiltonien d'interaction. Évidemment, on voit apparaître aussi le potentiel élémentaire de l'interaction. Deuxième exemple important. Alors maintenant, un exemple qui fait intervenir la lumière. La diffusion de Braque très désaccordée. Je vous en ai déjà parlé l'an dernier à propos des expériences de Peterle à MIT et de Phillips aussi à Gettysburg, où on fait une transition Raman stimulée avec absorption d'un photon et émission stimulée d'un autre photon entre deux états d'une particule. Alors, peut-être avant de commencer, une petite remarque. Vous allez me dire, pourquoi ne pas regarder simplement la diffusion? On envoie un photon très désaccordé pour éviter la diffusion multiple, très désaccordé, et on regarde les photons diffusés spontanément dans une autre direction. Ça serait le schéma le plus simple. C'est ce qu'on fait par exemple avec le rayonnement synchrotron. Le problème, c'est que c'est pas facile, le taux de diffusion n'est pas très grand, il y a beaucoup de lumière parasite, et regarder la diffusion spontanée, c'est pas facile. Et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus astucieux de faire de la diffusion stimulée, où on envoie un photon, on excite une transition, et on regarde l'amplification ou l'absorption sur un autre faisceau, c'est-à-dire on regarde une transition vraiment stimulée. Et à ce moment-là, on regarde uniquement le deuxième faisceau laser, et on regarde s'il est augmenté ou s'il est diminué. Et la sensibilité d'une telle méthode est beaucoup plus grande, et toutes les expériences qui ont bien marché, ça a été en utilisant cette méthode. Donc on part d'un état G et P, atome dans l'état G fondamental avec une impulsion P, et on envoie dessus une onde laser d'amplitude 1, de vecteur d'onde K1, de fréquence oméga 1. J'ai défini sur ce petit schéma cette flèche, on monte à une distance H bar oméga au-dessus, et on est très désaccordé par rapport à l'état E, atome dans l'état excité, avec une impulsion résultant de la conservation de l'impulsion, P plus H bar K1. J'appelle H bar delta, c'est l'écart d'énergie. Puis, j'ai une émission stimulée d'un deuxième photon, et de K2 oméga 2, la conservation de l'impulsion fait que on arrive ici dans un état G, P plus H bar Q, où Q est égal à K1 moins K2. Alors, j'ai fait la deuxième flèche tombant sur l'état, c'est pas très adroit en fait d'ailleurs, parce que oméga 1 moins oméga 2 n'est pas nécessairement égal à la différence d'énergie qui est entre ces deux états. Mais si oméga 1 étant fixe, on fait varier oméga 2, quand oméga 1 moins oméga 2 est égal à la différence d'énergie entre G1P, GP et GP plus H bar Q, on voit apparaître une résonance dans la probabilité de transition vraiment stimulée. C'est ce qu'on appelle aussi, par exemple chez nous, au laboratoire Fréchat Bruxelles, les résonances induites par le recul. Hein, c'est des transitions rarement stimulées entre deux états d'impulsion énergie différents. Donc vous voyez à quoi va constituer l'expérience. On va mettre deux faisceaux laser, et un K1 oméga 1 et deux K2 oméga 2. Oméga 1 étant fixe, on fait varier oméga 2, et on regarde à quel moment le transfert à la résonance, ça va nous permettre donc de trouver une résonance. Je suppose bien sûr ici que la différence oméga 1 moins oméga 2 est très très petite devant H bar delta, donc je suis très 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 désaccordé. J'appelle D et 1 sur H bar égale oméga 1 la fréquence de Rabi sur cette transition, D et 2 sur H bar égale oméga 2 la fréquence de Rabi sur cette transition. D étant l'élément de matrice du dipôle entre l'état E et l'état G. Alors, quelle est l'amplitude d'un processus? Quelle est l'amplitude du processus rarement stimulé? L'amplitude d'absorption, c'est D1 sur 2, qu'on développe le cosinus en E puissance I, E puissance moins J, à 1/2 qu'apparaît. Donc D1 sur 2, X puissance exponentielle I, K1R moins oméga 1T. Je prends ce morceau et non pas le complexe conjugué parce que il faut prendre le terme en E puissance moins J oméga T pour avoir un processus d'absorption. Hein, c'est le base, contribution positive ici, et puissance I carré R moins oméga 2, T. Et puis l'amplitude d'émission de l'autre photon, c'est D2 sur 2, exponentielle I. Ah, alors là, je me suis trompé, donc il faut mettre un signe moins ici. Si l'absorption, c'est puissance I carré R moins oméga T, l'émission, c'est puissance moins I K2R moins oméga 2T. Et puis, j'ai un dénominateur d'énergie qui est la différence d'énergie dans l'état intermédiaire qui est 1 sur 1 bar delta. Alors, comme je n'ai pas oublié le signe moins qui est ici, je vais avoir K moins K2, c'est un QR, oméga 1 moins oméga 2 qui est oméga T, et finalement, j'obtiens pour l'amplitude du processus rendement, H bar oméga R sur 2, où oméga R va être défini un petit peu plus tard, exponentielle IQR moins oméga T, où Q est le transfert d'impulsion, oméga le transfert d'énergie. Oméga R, c'est le produit de D1 sur 2 par 1 sur H bar delta par D2 sur 2. Donc H bar oméga R sur 2, c'est D1 sur 2, 1 sur H bar delta, D2 sur 2. C'est H bar 2, oméga 1, oméga 2 sur 4 H bar delta. De sorte que oméga R, la fréquence de rabis effective du processus rendement, c'est oméga 1, oméga 2 sur 2 delta. Je m'excuse, j'ai oublié un 2 ici, là aussi. Je transparent qu'on porte deux erreurs. Ils seront faciles à corriger maintenant avec le traitement de texte. Bien. Alors, l'Hamiltonienne d'interaction, qu'est-ce que c'est maintenant? Ben, c'est facile. C'est H interaction, c'est la fréquence de rabis, H bar oméga R sur 2, du processus effectif, somme sur I de 1 à N, de exponentielle IQ, Ri moins oméga t plus hermétique conjugué, que je peux réécrire f bar oméga r sur 2 somme de d3r exponentielle i plus r moins oméga t somme sur i de 1 à n de delta de r moins ri, et je vois réapparaître ici la densité a encore, donc c'est f bar oméga r sur 2 somme de d3r et puissance i plus r moins oméga t rho i de r plus hermétique conjugué. Là aussi, sur cet exemple, on voit apparaître la densité spatiale a encore. De manière très plus générale, ce qui se dégage de ces deux exemples, c'est que les interactions des atomes condensés avec une particule sombre sont des interactions locales. Elles ne dépendent que de la position des particules sondées, elles ne dépendent pas de leur vitesse. On peut imaginer bien sûr des expériences où ça dépendra aussi de la vitesse. Ici, elles dépendent de la position, elles ne dépendent que des positions, et donc, comme elles ne dépendent que des positions, on peut les réexprimer en fonction de la densité spatiale à un corps. Donc toutes les interactions locales vont sonder la densité spatiale à un corps du condensat. Et les deux hamiltoniennes que j'utiliserai constamment dans la suite, je les ai marquées ici, interaction d'une partie, d'un atome sonde avec les atomes condensés, ici, interaction d'un atome, d'un transition rarement simulé, interaction avec le condensat. Et vous voyez ici apparaître maintenant quelque chose d'important, quand on interagit donc avec une onde vraiment, un processus vraiment simulé, on voit apparaître ici clairement la transformée de Fourier spatiale de Rho 1, et là je voudrais dire quelques mots dessus, parce que c'est l'objet qui va apparaître aussi tout le temps, la transformée de Fourier spatiale de Rho 1 de R. Alors, je vais toujours travailler dans une boîte de côté L avec des conditions limites périodiques, et Rho 1 de K, comme les ondes sont repérées par maintenant des indices discrets, cette sensation n'est pas très heureuse. Il vaut mieux l'appeler Rho de indice K, hein, parce que c'est un indice discret. Je pourrais bien mettre aussi Rho IK, mais ça fait trop d'indices, je mets donc Rho indice K seulement. Rho indice K, c'est somme de D3R et puissance IKR, Rho I de R. Rho 1 de R, pardon. Et la formule inverse, c'est en fait, c'est plutôt une série de Fourier qu'une transformée de Fourier ici, c'est 1 sur L3, somme sur K, D puissance moins IKR, Rho indice K. J'aurais pu mettre aussi 1 sur L3 demi entre les deux. Non, mais je vais plutôt le prendre comme ça. Et à ce moment-là, de Rho I1 de R égale somme sur I de delta de R moins RI, j'obtiens une expression très importante pour la suite pour Rho K. Rho indice K, l'opérateur densité spatiale composante K, c'est somme sur I de 1 à N de E puissance I K opérateur RI. Évidemment, si je prends le complexe conjugué, la hermétique conjuguée, c'est puissance moins i k ri, puisque ri est hermétique, et c'est rho de moins k. Donc rho k croix égale rho moins k. Et avec cette notation, la Hamiltonienne d'interaction qui apparaît dans la diffusion de bras stimulé, que j'avais écrit comme ça tout à l'heure, c'est tout simplement h bar oméga r sur 2, rho q et puissance moins i oméga t, plus rho q croix et puissance plus i oméga t. Donc c'est un Hamiltonienne d'interaction, la fréquence de rabis qui multiplie directement rho q et puissance moins j oméga t. Alors, je m'excuse encore de faire quelques rappels élémentaires sur la seconde quantification, parce que c'est quand même beaucoup plus commode de travailler en seconde quantification, et je voudrais aussi donner l'expression de ROCA, recul en seconde quantification, parce que j'en aurais tout le temps besoin. Donc, je rappelle que en seconde quantification, qu'est-ce qu'on fait? On prend une base d'état individuel, phi alpha, orthonormé, phi bêta, phi alpha égale delta alpha bêta, et l'espace de Fock, c'est un espace qui est défini par une base n1, n2, n alpha, donné par les nombres d'occupation. N alpha, c'est le nombre de bosons qu'il y a dans la partie, dans l'état phi individuel phi alpha. Comme ce sont des bosons, n alpha peut prendre toutes les valeurs, 0, 1, 2, etc. Et le vide de particules, où il y a, quand il n'y a aucun boson, c'est 0, tous les nombres d'occupation sont nuls. Et il est très commode de réexprimer tout en fonction de briques élémentaires, d'opérateurs élémentaires, qui sont les opérateurs de création et d'élimination. Alpha croix crée un boson dans l'état phi alpha. Alpha détruit un boson dans l'état phi alpha, et le fait qu'on a affaire à des bosons se traduit par des relations de commutation simples entre A alpha et A bêta croix, qui sont données ici, A alpha, A bêta croix, égale delta alpha bêta. Alors, les opérateurs champs, dont j'ai parlé tout à l'heure, ne sont autres que des opérateurs A et A croix, mais dans une base particulière, qui est la base R, la base position. On change de base, on passe de la base phi alpha à la base R, et on peut évidemment passer d'une base à l'autre au moyen de la relation de fermeture sur sigma alpha, phi alpha, phi alpha. L'état localisé au point R, c'est une somme sur alpha de l'état phi alpha qui multiplie un nombre qui est ce produit scalaire qui n'est autre que phi alpha étoile de R. Et l'opérateur psi, l'opérateur champ au point R, c'est la somme sur tous les phi alpha, tout alpha de phi alpha de R, le nombre phi alpha de R, qui multiplie A alpha. Ça rappelle beaucoup la mécanique quantique à une particule, une superposition linéaire des états de base, à part que le coefficient A alpha, ou le delta des coefficients, sont ici des opérateurs, ce sont des opérateurs de destruction. Et ça, ça devient donc non pas une fonction d'onde, mais un opérateur champ point R. Et si je prends l'arithmétique, c'est psi croix, la même chose, A alpha croix, phi alpha étoile de R. Et l'interprétation découle directement de cette formule. Si en effet je fais agir cet opérateur création sur le vide, j'obtiens cette superposition avec alpha croix agissant sur le vide. Alpha croix agissant sur le vide nous donne une particule dans l'état alpha, donc c'est somme sur alpha, le phi alpha étoile de R, une particule dans l'état alpha, que je peux aussi écrire phi alpha ici. Et si je compare cette formule et celle-là, je m'aperçois que ceci n'est autre que R, donc l'opérateur psi croix de R agissant sur le vide me donne une particule dans l'état R, c'est-à-dire au point R. Donc l'opérateur psi croix de R, c'est l'opérateur création d'une particule au point R, et l'opérateur psi de R, c'est l'opérateur destruction d'une particule au point R. Et la relation de commutation canonique de la base discrète, ici, devient psi de R, psi croix de R', égale delta de R moins R'. Alors, ce que j'ai fait pour les états, on peut aussi le faire pour les observables. Et je rappelle ici les deux formules essentielles de la seconde quantification. C'est qu'à tout opérateur symétrique à une particule, F, opérateur somme sur I de 1N de F de I, où le petit f est le même pour toutes les particules, est associé en seconde quantification, un opérateur F chapeau, somme sur infini sur alpha, somme infini sur bêta, l'élément de matrice de l'opérateur petit f entre phi alpha et phi bêta, qui multiplie A bêta croix à alpha. Ça ressemble beaucoup aussi à ce qu'on fait en mécanique quantique, qu'on prend la valeur moyenne de F dans l'état à une particule somme sur alpha de alpha phi alpha, à part que maintenant, ces deux quantités-là, au lieu d'être des nombres, sont des opérateurs. Et une formule équivalente pour les opérateurs à deux corps. Alors, si je rappelle ça, c'est simplement pour dire que, en seconde quantification, les deux opérateurs ρ1 et ρ2 que j'ai introduits ont une forme particulièrement simple. ρ1 de R, c'est tout simplement psi opérateur 3 de R, psi de R. Là aussi, ça rappelle tout à fait la mécanique quantique, la densité d'une fonction d'onde au point R, c'est psi étoile psi, on remplace psi étoile par psi croix, et psi par l'opérateur psi. Et de même, l'opérateur densité à deux particules, la densité spatiale à deux corps, c'est psi croix, psi croix, psi psi, vous retrouvez les fonctions de corrélation. La valeur moyenne de ρ2, c'est les fonctions de corrélation que j'ai introduites au début des rappels. On peut aussi remarquer que en faisant commuter ces deux choses-là, je fais apparaître un psi croix psi et un psi croix psi, c'est-à-dire un produit de deux densités à un corps, et donc en utilisant le commutateur en psi croix et psi, je peux remettre ρ2 sous la forme, ρ2 de r prime égale ρ1 de r prime, moins delta de r moins r prime, ρ1 de r. Enfin, j'applique ces formules générales pour ρ indiscu. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, ρ indiscu, c'est somme, en première quantification, c'est somme sur i de 1 à n de la puissance iq, l'opérateur scalaire, l'opérateur ri. Donc c'est une somme d'opérateurs à une particule. En seconde quantification, j'utilise ma formule générale, je prends cet opérateur puissance iqr entre l'état k' et l'état k, et j'ai ici ak' croix ak. Donc en seconde quantification, l'opérateur recul, c'est somme sur k, ak' croix ak, k' et puissance iqr k. Alors, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? K c'est 1 sur L3 demi puissance IKR, K' c'est 1 sur L3 demi puissance moins IK', donc c'est 1 sur L3, somme de V3R et puissance IK plus Q moins Q'R. Et si cet argument n'est pas nul, l'intégrale est nulle, si Q égale K' moins K, ou plutôt si K' égale K plus Q, ça, l'intégrale vaut L3, de sorte que ceci, les différentes zéros que si K' est égal à K plus Q, et ça vaut 1 à ce moment-là, et j'obtiens une relation extrêmement simple pour ρ indice Q, opérateur composante de Fourier de ρ au vecteur d'onde Q, en seconde quantification, c'est sigma sur ça de AK à K plus Q. Ça, c'est une formule extrêmement importante dont j'aurai constamment besoin pour la suite parce que nous verrons que c'est cette formule qui apparaît dans les facteurs de structure statique et dynamique. Dernière transparente, il y a quelque chose sur lequel j'ai perdu pas mal de temps, c'est de réaliser que ρQ est un opérateur de translation. Si je prends ρQ sous cette forme, ρQ égale somme sur i de 1 à n des puissances iqri. Si je prends e puissance iqri, c'est un opérateur de translation de la particule i dans l'espace des impulsions de la particule i. Opérateur de translation de h bar q. Et puis je somme sur i. Donc l'opérateur ρQ a une autre signification physique. C'est l'opérateur qui translate l'impulsion globale du système de n particules d'une quantité h bar q. Si je fais agir ρQ sur un état d'impulsion donné total, P, j'obtiens un nouvel état d'impulsion bien défini qui est P plus H bar Q. Et ça, c'est important parce que ça introduit des règles de sélection dans les éléments de matrice de l'opérateur ρQ, éléments de matrice qui apparaissent dans le facteur de structure, dans les polarisabilités, dans les fonctions de réponse linéaire. On peut aussi le démontrer de manière plus savante. P égale sigma IPI, ρQ égale ceci. Le commutateur de P avec ρQ, c'est le commutateur de sigma IPI avec ceci. Le commutateur de pi avec i puissance iqri, c'est h bar q, ρQ. Et en utilisant ce commutateur, ne se trompant pas comme je le fais ici, je vais le faire dans le sens, on vérifie aisément qu'agissant sur un état d'impulsion globale petit p du système de boson, ρQ crée un nouvel état d'impulsion petit p plus h bar q. Voilà, j'arrête ici les formules. Je voudrais simplement maintenant donner le plan général du cours de cette année. Donc, je vais commencer d'abord par une séance sur les facteurs de structure, sur les deux, dynamique et statique et les polarisabilités. Parler aussi des règles de somme. D'abord, une étude générale. Je vais définir ces quantités. Étudier leurs propriétés, leur signification physique et les relations qui existent entre elles. Il y a plusieurs relations importantes qui existent entre elles. Puis ensuite, une autre séance, j'aborderai le cas du condensat homogène. Condensat dans une boîte avec une densité uniforme. J'étudierai la forme du spectre qu'on attend. j'étudierai comment se comporte le facteur de structure statique quand Q tend vers 0, parce que c'est un problème qui a été étudié expérimentalement en grand détail par l'équipe de Ketterle. J'étudierai les règles de somme, d'abord. Et ensuite, j'étudierai aussi un problème important. Là aussi, relatif à une expérience récente, on prend un atome, un condensat, on fait passer un atome condensé du sous-niveau Zeeman piégeant vers un sous-niveau Zeeman qui n'est pas piégeant. À ce moment-là, ça devient une particule discernable des autres. Et par une impulsion rarement simulée, on lui donne une vitesse V. Et on calcule la section efficace de diffusion donc, d'un atome qui a la même masse, discernable des atomes condensés en fonction de sa vitesse. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que cette section efficace s'annule brutalement, avec une certaine loi, quand la vitesse devient inférieure à une vitesse critique, qui est le phénomène de superfluidité. Phénomène de superfluidité d'un condensat observé sur une sonde microscopique. Bon, ça, j'étudierai ça en détail. Donc, condensat homogène, brade, superfluidité. Ensuite, je passerai au condensat inhomogène, c'est-à-dire un condensat piégé. Alors là, les calculs sont moins simples dans le cas homogène, mais on peut introduire un certain nombre d'approximations, un certain nombre d'idées, parce que c'est important de le faire, parce que les expériences sont faites non pas sur un condensat homogène, mais sur un condensat piégé. Et ensuite, je passerai, donc tout ça c'est le régime linéaire, je passerai ensuite à la diffusion Rayleigh superradiante, les effets non linéaires, donc diffusion Rayleigh superradiante. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des effets de mémoire et que les diffusions successives sont corrélées l'une avec les autres? Je vous montrerai un petit peu apparaître des phénomènes collectifs comme la diffusion Rayleigh, phénomènes qui ont été observés aussi. Et enfin, un sujet très important et très actuel qui est l'amplification cohérente des ondes de matière. Voilà donc le programme que je compte traiter cette année.